Petits ou grands, enfants ou géants, petits frères ou grand-mères, voici l'heure des oreilles buissonnières. Bonjour à vous, chères petites et grandes oreilles buissonnières. Savez-vous que le temps du son que ma voix émet jusqu'à vos délicates oreilles ne parcourt pas moins de 340 mètres par seconde ? Pourtant, le son ne prend ni moto, ni camion, ni bateau, ni avion. Mais oui, c'est la magie des ondes, je sais. Vous avez bien raison. Mais de traverser la France en roulant sur les ondes, ça irait nettement plus vite et il n'y aurait ni péage ni bouchon. Folle, dites-vous ? Eh bien, trouvez-en, vous, des idées à la question suivante. Se déplacer, le faut-il, mais comment ?
Ben, on peut se déplacer de plusieurs manières différentes, comme en vélo, en trottinette, en roller, en voiture.
Après, il y a aussi des choses que les gens ils ont inventées, les humains, des cars ou des bus où il y a plusieurs personnes qui peuvent y être. Ça permet à ce qu'il y ait moins de voitures qui circulent.
Mais maintenant, nous, bah, dans notre ville, on a aussi mis des vélos de un peu de partout. Qu'on prend et qu'après on pose un autre arrêt, des libellos ça s'appelle. Et moi je sais que j'ai vu déjà plusieurs personnes les utiliser, donc c'est pas mal et c'est écologique.
Mais il y a un moyen de transport qui n'a pas encore été cité, c'est le train.
Si on habite à Lyon, pour aller à une petite ville à côté, bah, on prend le métro. C'est pas non plus hyper écologique, mais on peut y être beaucoup dedans.
De nos jours, on utilise beaucoup plus la voiture, et ce qui est assez bête parce que je pense que tout le monde a un vélo au fond de son garage qui ne sert pratiquement pas ou il s'en sert juste pour jouer dans son jardin ou devant chez soi.
Ben, moi, je pense vraiment que tout le monde devrait faire son possible pour ne pas du tout polluer, prendre la voiture le moins que possible, enfin, essayer de prendre des moyens de transport le plus écologique possible parce que sinon ça va pas le faire quoi.
Après c'est vrai quand on est une famille nombreuse qui a 5 enfants et des petits, on peut pas forcément y aller en vélo parce que c'est dangereux et puis plus difficile.
Ça demande un effort physique et si par exemple tu habites dans un petit village en montagne et tu peux aller par exemple en vélo acheter une baguette de pain, mais après pour retourner chez toi il faut remonter la pente et c'est assez dur, donc les transports à roues qui polluent pas c'est bien, mais ça demande un effort physique.
C'est pas forcément très très écologique les trottinettes, les rollers, les vélos et les skateboards. Parce que les matières qu'il faut prendre pour les faire, c'est pas forcément, par exemple, pour le skate. Faire la planche, il faut prendre du bois. Et le bois, on le prend sur les arbres.
Et le bois, pour aller le chercher, il faut un camion. Parce qu'on va pas rentrer ça dans un roller, on va pas ramener un tronc d'arbre pour aller se construire notre skateboard.
On dit que ça pollue quand même si on prend la trottinette, le vélo ou quoi que ce soit, parce qu'on fabrique, mais ça pollue quand même moins que la voiture, parce que la voiture, on la fabrique aussi, et en plus, elle pollue quand on roule, alors c'est quand même mieux de prendre le vélo.
Mais en fait, au bout d'un moment, on est toujours obligé de polluer, parce que quand on roule en vélo, on a fabriqué le vélo, quand on roule en trottinette, on l'a aussi fabriqué, les rollers aussi, les voitures aussi, alors on est tout le temps au moment obligé de polluer, quoi. À part sur la marche à pied.
Bah oui, un peu tout pollue, même la marche à pied. Parce que pour faire les chaussures, il faut des trucs.
En fait, si on suivrait tout ce que nos camarades ont dit, en clair, on serait encore des hommes de Cro-Magnon.
Bah oui, voilà, c'était un peu ce que je voulais dire. En fait, on n'arrête pas de rentrer dans les détails. Si on fait une voiture, quand on la fabrique, ça pollue. Si on fait une trottinette, ça pollue. Bah alors tout pollue, on peut pas aller plus loin.
Bah, si on se déplaçait plus, ça serait assez embêtant quand même, parce que de chez nous, on peut avoir un petit jardin. On n'irait pas trop loin, donc on peut dire que ça va pas faire partie de trop se déplacer, parce que c'est quand même chez nous. Mais on peut pas faire pousser des pâtes, Donc, à moins qu'on ait un pâtier, mais à mon avis, ça n'existe pas. Donc, on est obligé d'aller dans un magasin pour acheter des pâtes. Mais si on ne pouvait pas se déplacer, on mangerait que des légumes.
Aussi, faut bien polluer parce que il en faut bien du CO2 dans la vie.
De toute façon, si on veut être 100% écolo, ben on ne peut pas exister.
C'est vrai qu'il y a beaucoup en ce moment la question écologique, mais il y a aussi la question économique, parce que si par exemple dans une famille, toute la famille veut devenir, on va dire, un peu écologique, il faut que tout le monde s'achète un vélo, et aussi bien des vélos qui tiennent bien la route, avec les accessoires, les roues, enfin, elles y sont dessus, mais vraiment tout pour réparer, aussi bien ça sera aussi cher qu'une voiture, donc parfois pour la planète il faut faire beaucoup de dépenses, c'est vrai, mais... Il y a parfois où on peut, il y a des gens qui peuvent, mais d'autres qui ne peuvent pas.
Eh ben, moi, je dis qu'il faut pas arrêter de se déplacer, parce que peut-être qu'on dit qu'il faut être écologique parce qu'il y a le réchauffement climatique, mais aussi la Terre, elle a subi plein de périodes glaciaires où il y a eu un réchauffement aussi, donc peut-être que c'est ça, peut-être que c'est le réchauffement climatique à cause des hommes, donc on n'en sait rien, donc faut être écologique quand même, faut faire de son mieux, parce qu'on n'est qu'un tout petit grain de sable dans des milliers de grains de sable, donc s'il y a plein de grains de sable qui se mettent à être écologiques, ben, ce sera déjà mieux. Et vu qu'on ne sait pas si c'est un réchauffement climatique ou une période du cycle naturel, et ben faut arrêter de se monter la tête.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes, puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette.
C'était bien sûr la célèbre bicyclette de Yves Montand sur les oreilles buissonnières. Alors, cette bicyclette, est-ce une vraie estafette ou bien plutôt le moyen de faire du vent dans les jolis cheveux de Paulette ? Bref, se déplacer en bicyclette, n'est-ce pas bon que pour les chansons ? Alors dites-nous, Pascal Le Petit et Aurélia Nain, membres actives toutes les deux des associations Roulant en ville à vélo et de Système d'échange local. Se déplacer, le faut-il ? Mais comment ?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, oui, nous sommes venus déjà avec Pascal en vélo, malgré le mauvais temps, hein, en mettant nos kawaii toutes les deux. Et puis on est arrivés à bon port. Et on est bien contente de participer à l'émission.
Eh bien, nous aussi. Bienvenue.
Merci. Donc, oui, se déplacer. Alors, on va parler des problèmes générés par nos moyens de locomotion. Et il y en a un qui me paraît tout à fait fondamental, hein, auquel on pense tout de suite, c'est la pollution atmosphérique. Mais il y a aussi la pollution olfactive, hein, à cause des mauvaises odeurs, sonores, hein, avec tous les bruits que ça engendre, et visuelles, puisque 80% de l'espace public urbain est occupé par la voiture.
80%.
90% de l'espace public urbain.
Ah, 90%.
90%, oh, oui. C'est énorme, hein, quand même.
Effectivement.
Alors, en ce qui concerne les rejets issus du pot d'échappement des voitures, il y a d'abord le fameux CO2, gaz carbonique, ou encore dioxyde de carbone. C'est le même produit. Donc, il est responsable en grande partie du réchauffement climatique actuel, parce que c'est un gaz à effet de serre et il est en constante augmentation dans l'air depuis le début du 19e siècle. Donc, ce réchauffement climatique actuel a la propriété d'être ultra rapide. Et on en voit d'ailleurs déjà les premiers effets. Donc, par exemple, la fonte des glaciers, la montée des eaux, la désertification. Il commence aussi à avoir des déplacements de population, qu'on appelle d'ailleurs les réfugiés climatiques. On observe aussi des extinctions accélérées d'espèces animales et végétales, plus également des problèmes de santé sur les populations. Les voitures de nouvelle génération produisent moins de gaz carbonique. Par contre, le parc automobile continue à augmenter. Actuellement, dans le monde, on compte environ 500 millions de véhicules. Et en 2020, on table sur 1 milliard, ce qui est énorme. Alors, ce sont surtout actuellement la Chine et l'Inde qui s'équipent, hein. Les Asiatiques sont pourtant bien loin du record des Américains. Les Américains, c'est 3 voitures pour 4 personnes.
Donc, presque une personne dans chaque voiture, finalement. Alors qu'on pourrait imaginer que dans une voiture, il y a au moins 4 ou 5 places, non ?
Oui, c'est le problème, hein. C'est qu'effectivement, dans un véhicule, on peut faire monter 5 personnes, mais même sans aller jusqu'en Amérique, chez nous en France, les foyers sont souvent occupés. Il y a souvent 2 voitures par foyer, voire même parfois 3 voitures par foyer. Alors, il y a aussi un autre problème avec ces voitures modernes, hein, c'est qu'elles sont équipées de gadgets, notamment la climatisation. Et la climatisation, c'est un réel problème puisqu'elle fait augmenter de 30% la consommation en carburant. Et puis, elle n'est pas forcément utile, elle n'est pas forcément nécessaire sous nos climats, cette climatisation.
Et puis, en plus, avec la vitesse, on peut mettre sa main dehors et prendre le vent, c'est aussi bien.
Voilà, on peut ouvrir les fenêtres, garer la voiture à l'ombre. Alors, en France, il y a quand même 4 voitures sur 10 actuellement qui est équipée de la clim. Et en 2020, il y en aura 9 sur 10, ce qui est quand même une réelle catastrophe pour l'environnement.
D'accord.
On a aussi donc tout un tas de gaz comme des sulfates, des nitrates, de l'ozone qui sont des gaz irritants, dangereux pour la santé. Et puis il y a les fameuses particules. Ces particules qui sont souvent issues des moteurs diesel que les Français adorent et qui pénètrent profondément dans les poumons, donc endommageant, provoquant éventuellement des infections respiratoires, surtout chez les enfants. Faire du vélo marcher est un excellent moyen pour sa santé personnelle et aussi pour la santé de l'environnement.
Oui, et puis un véritable fléau aussi pour la santé publique, ce sont tous les accidents de la route. En France, il y a quand même plus de 4200 morts par an, ce qui représente 12 personnes tuées par jour et 84 000 blessés. Donc les accidents de la route sont la première cause de mortalité en France chez les jeunes de 15 à 24 ans.
Donc on pourrait penser que le vélo, c'est dangereux de faire du vélo en fait.
Mais aussi, marcher, oui. Marcher ou pédaler n'est pas dangereux en tant que tel, mais les piétons et les cyclistes sont fragiles dans le flot de la circulation urbaine.
Donc là, finalement, vous faites l'apologie du vélo contre le tout automobile. Mais moi, j'ai envie de vous poser la question suivante. L'automobile permet de se déplacer quand même plus loin. Donc, qu'est-ce que cela signifie ? Ne faut-il ne plus se déplacer ?
Oui, autrefois, les gens consommaient plus local, chacun cultivait dans son petit jardin, les gens partaient beaucoup moins en vacances et beaucoup moins loin, et le commerce se faisait également de façon... C'était un commerce de plus de proximité, hein. On allait ne se procurer à l'étranger que les denrées qu'on n'avait pas chez nous. Maintenant, la mondialisation a changé la donne. On se retrouve à délocaliser ce qu'on savait faire chez nous, mais qu'on fait faire dans des pays où la main-d'œuvre est meilleur marché. On a des exemples comme ça d'aberration totale, hein, comme par exemple ces crevettes qui sont pêchées en Norvège, qui sont expédiées au Maroc pour y être décortiquées, qui sont de nouveau rapatriées en Norvège pour y être consommées. Alors, on a un exemple aussi d'un accident qui s'est produit au niveau du tunnel de Fourvière. Il y avait un camion qui transportait des tomates qui venaient de Finlande et un autre qui transportait des tomates et qui venaient du Portugal.
Donc finalement, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que se déplacer, oui, mais peut-être éviter des déplacements à outrance et voir comment consommer plus local finalement pour diminuer ces charges de déplacement.
Oui, absolument. Et puis, bon, peut-être que le problème sera réglé le jour où il n'y aura plus de pétrole, puisque le pétrole est une ressource finie, la production est en train de chuter. Donc, à un moment donné, les prix, il va y avoir une explosion au niveau des prix. Et quand il n'y aura plus de pétrole, comment vont faire les générations futures? Il est temps aujourd'hui de mettre des solutions en place pour éviter effectivement la catastrophe.
Et donc peut-être aussi d'avoir des moyens de locomotion qui n'utiliseraient pas le pétrole, c'est ce que vous dites ?
Oui, absolument, oui.
Alors lesquels ?
Alors déjà, il faudrait se déplacer de manière plus raisonnable, et aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Hein. Alors il y a des solutions qui commencent à voir le jour.
Oui, moi je pense qu'il y a une réelle prise de conscience. Il y a de plus en plus de gens, par exemple, qui pensent au covoiturage. Il y a des sites internet qui se sont créés par rapport au covoiturage. Et voilà, il faut partager les déplacements. Il y a l'autopartage aussi, hein, c'est-à-dire acheter une voiture à plusieurs. Parce que la voiture, on ne l'utilise pas toute la journée.
Ah,
on
n'en
a pas
prêter.
Besoin toute la journée. Et se la prêter,
quelle
oui, absolument.
Bonne idée.
Se la répartir, disons.
Voilà, se la répartir. Alors, évidemment, il est parfois indispensable d'utiliser un mode de transport quand on veut aller loin. Hein. Alors là, on a trois possibilités. On a la voiture, le train ou l'avion. Bon, l'avion mérite d'être évité sur de courtes et moyennes distances parce que le décollage et l'atterrissage sont très gourmands en kérosène. Par contre, le train est vraiment le mode de transport le moins dangereux et de beaucoup le moins polluant. Alors après, en ville, quand on a un petit coup de flemme, on peut prendre le bus ou le métro, on peut prendre les transports en commun. Choisir les transports en commun, c'est vraiment préserver la qualité de l'air et réduire l'effet de serre. À savoir qu'un autobus rempli de passagers, hein, donc dans un autobus on met entre 35 et 40 personnes, ça permet de retirer 40 véhicules de la route aux heures de pointe et d'économiser 70 000 litres de carburant par an. Hein, c'est quand même notable.
Et par exemple, puisque c'est une émission pour les enfants, essentiellement, qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller à ces enfants pour aller à l'école, par exemple ?
Alors, pour aller à l'école, il y a de multiples solutions. Ce qu'il faudrait déjà, ça serait éviter d'y aller en voiture individuelle. Alors, pourquoi pas le covoiturage, si les enfants habitent un peu loin.
Entre copains,
bien sûr.
Le pédibus,
alors qu'est-ce que c'est que cela ?
Voilà, c'est assez récent. C'est un bus piéton. Donc, des adultes accompagnent les enfants et font tous les jours le même trajet en prenant au passage tous les enfants qui vont à l'école.
Avec des arrêts de bus piétons.
Avec des arrêts de bus piétons. Ouais. Il existe dans le même style le vélo-bus. C'est exactement pareil, à part que les déplacements se font en vélo, ce qui permet de venir d'un peu plus loin, on va dire. On peut aussi venir à l'école en vélo individuellement. Si la sécurité est assurée, par exemple, s'il y a des pistes cyclables, etc. Quoi.
Et la trottinette et les rollers, par exemple.
Oui, ça, les enfants en ont parlé tout à l'heure dans le reportage. Effectivement, c'est très ludique. Hein. Ce sont des moyens de se déplacer qui sont en plus ludiques, qui permettent la convivialité, qui permettent les échanges, qui permettent de se retrouver, de discuter sur le chemin de l'école.
Donc moi, j'ai envie de vous poser une question. Mais alors, quels doivent être les paysages d'aujourd'hui et de demain pour optimiser de moindres déplacements?
Alors là, moi j'imagine très bien une ville transformée où il ferait bon de vivre.
Ah, laquelle alors, dites-nous.
Alors ma ville, enfin moi, nous, à beaucoup de gens, voilà, la ville rêvée, ça serait déjà une ville où on limiterait l'étalement urbain pour augmenter la densité démographique, donc. Et avoir tout à proximité, les commerces, le travail, les loisirs, les écoles, tout serait à portée de pédales ou de marche à pied ou de transport en commun. Et les transports en commun seraient très efficaces dans ces cas-là. Alors en plus, on peut imaginer...
Oui, il y a la fameuse ceinture verte qui est en train de se mettre en place actuellement autour de certaines villes.
Hein, dont Valence.
Dont Valence, hein, et qui permet effectivement de limiter cet étalement urbain et qui pourrait assurer nos besoins alimentaires, puisque il y a des agriculteurs qui peuvent occuper ces terres et à qui on irait acheter nos légumes.
Ah, d'accord, pour consommer au plus proche de chez soi.
Absolument, oui. Après, bon, pour les transports qui sont, des fois, on n'a pas le choix. On est obligé d'utiliser la voiture. Mais je pense que la voiture doit rester un moyen de transport à consommer, comme on dit, avec modération. Hein. Quand il est indispensable de l'utiliser, il faut penser à optimiser ses déplacements, hein, à regrouper les courses, regrouper les déplacements.
Donc si j'entends bien, finalement, c'est une dynamique collective que vous entendez, une problématique sociale où les gens travaillent avec les autres, travaillent entre guillemets, c'est-à-dire fonctionnent ensemble.
Oui, ça
permet de... C'est un message humain, finalement.
Oui, faire jouer la solidarité, faire jouer la convivialité, les échanges.
Je voudrais terminer quand même par l'environnement urbain. Dans l'avenir, il faut vraiment que les villes améliorent l'environnement urbain, qu'il soit beau et verdoyant, avoir des rues comme des parcs, entendre le chant des oiseaux, sentir l'odeur des fleurs et de la chlorophylle. Voilà, être bien dans la ville, ne plus avoir envie d'en sortir finalement.
Eh bien, merci, mesdames du vélo.
Bon voyage, messieurs du vélo. Bon voyage, gagnez le gros lot. Si la route est carottée et fatigante,
dites-vous qu'après la montée, il y aura la descente.
Bon voyage, messieurs du vélo. Bon courage, baissez votre dos. On dirait là-haut que les petits oiseaux vous chantent.
Vas-y, Toto!
À bientôt!
N'attrape pas trop chaud!
Les vieilles dames, les marmots!
Crient à tous les échos! Bravo, bravo, monsieur du vélo!
Mesdames, messieurs, vous vous rappelez,
c'est monsieur Dumollet qui s'en allait en diligence.
Aujourd'hui, nous sommes assemblés
pour chanter les mollets, tous les mollets du Tour de France. Bon voyage, messieurs du vélo! Bon voyage, qu'il les aux photos. Tout à l'heure, pour le vainqueur, il y aura des roses. Des baisers,
des tours d'honneur,
des tas de bonnes petites choses.
Bon courage, messieurs du vélo. Du courage, c'est fou ce qu'il en faut. Toute la foule, les gens, les vaches, les veaux, les poules.
Mesdames, dansez. Lorsque vous passez,
les vieilles dames, les marmots,
vont sauter leur chapeau. Bravo, bravo, messieurs du vélo. Bon voyage, messieurs du vélo. Bon voyage, gagnez le gros lot. Si la route est carottée et fatigante,
dites-vous qu'après la montée, il y aura la descente.
Bon voyage, messieurs du vélo. Bon courage, baissez votre dos. On dirait la roncle, les petits oiseaux vous chantent.
Vas-y, Toto.
À bientôt.
N'attrape pas trop chaud.
Les vieilles dames, les marmots.
Et à tous les échos. Bravo, bravo, messieurs du vélo.
C'était en 1939 que Mireille chantait « Bon voyage, messieurs du vélo ». Ah, ces messieurs, comme ils sont encore aujourd'hui craquants dans leur tenue savante, moulante et flambante, jaune moutarde ou rouge tomate, au liseré bleu canard ou vert petit pois, avec leurs petites gourdes bien calibrées et leurs petits numéros sur le dos, de vraies jolies petites grenouilles qui grouillent en vadrouille. Ne voyez aucune moquerie là-derrière, absolument pas, car pédaler par 40 degrés Celsius et pas un cumulonimbus pour vous ombrager tête et bicyclette, en vous disant à chaque coup de pédale « Allez Arthur, plus que 63 kilomètres !» Moi, je dis chapeau. D'ailleurs, je vous propose tout de suite de chevaucher vous aussi un vélo. Mais pas n'importe lequel, le vélo rouge de Didier Dufresne et Fabrice Thurier. Comme j'étais beau quand j'étais neuf! Quand Louise est venue avec ses parents dans le magasin, elle m'a choisi tout de suite. Elle a crié « C'est lui que je veux, le beau rouge !» Et oui, à ma naissance, j'étais rouge. Rouge avec deux petites roulettes pour m'aider à tenir sur mes roues. J'étais si petit. Ah, on en a fait des tours, Louise et moi, sur les chemins et sur les routes, dans les ruelles et les sous-bois. On filait comme le vent. J'ai eu mes premières maladies, pneus crevés, peintures rayées, pédales tordues. On était jeunes et on tombait souvent. Louise a grandi, et moi aussi. On a enlevé mes roulettes et on a monté ma selle et mon guidon. Encore plus vite, toujours plus loin. C'était la belle vie. Mais Louise a trop grandi. Je suis devenu trop petit. Ma peinture était écaillée, mes pneus étaient usés. On m'a rangé dans le grenier. Bien sûr, je m'y suis fait des amis, la poupée sans bras et l'ours pelé. Je leur racontais nos promenades, la rue, les voitures. Les pauvres, ils n'étaient jamais sortis de la maison. Mais je m'ennuyais beaucoup. C'était si beau, la vie d'avant. Un jour, la porte du grenier s'est ouverte. J'ai pensé, ça y est, Louise a une petite sœur. Je vais enfin pouvoir sortir d'ici. On va me réparer et je vais pouvoir rouler encore. Louise et son père m'ont soulevé sans un mot. Ils m'ont descendu dans la cour. Enfin dehors! À moi les longues promenades! Mais à peine sortis, ils m'ont enfermée dans le coffre de la voiture et nous sommes partis. De ma prison, je les entendais parler d'une mystérieuse bourse aux jouets. Je m'attendais à tout. Je m'attendais à tout, mais pas à ça! On m'a porté dans une salle immense, pleine de parents, d'enfants, de bruits et de vieux jouets. Et là, j'ai compris, ils allaient me vendre à des inconnus, moi, leur fidèle vélo, un ami de toujours. Je tournais mon guidon vers Louise d'un air suppliant. « Tu ne vas pas me faire ça, dis !» Mais elle ne me voyait pas, trop occupée à regarder autour d'elle, les yeux pleins d'envie. Alors a commencé le jour le plus triste de ma vie. Les gens se bousculaient, me touchaient, pinçaient mes pneus. Ils me faisaient mal, ils essayaient ma sonnette, mes freins. Un gros garçon joufflu est même monté sur moi. Le nom d'un tricycle qu'il était lourd. J'entendais demander « Et c'est combien ? 300 francs ?» Les gens hochaient la tête et s'éloignaient. Moi, je me tenais mal et je faisais exprès de grincer quand on me touchait. J'étais sûre que personne ne voudrait de moi. Je rentrerais à la maison, Louise finirait bien par avoir une petite sœur. La salle était presque vide. Il ne restait plus que quelques familles autour de leurs vieux, vieux jouets. C'était certain, j'étais sauvée. Un vieil homme s'est approché de moi. Il m'a tourné et retourné dans tous les sens. Heureusement, il avait les mains douces. Il a demandé « Combien ?» J'étais sûre que j'étais trop chère et j'ai pâli quand j'ai entendu le père de Louise dire « Il est à vous pour 100 francs, allez !» J'ai pensé, non, il ne peut pas me faire ça. Et l'homme a souri. Eh bien, je le prends. C'est ainsi que je me suis retrouvée ligotée sur le toit d'une voiture à la peinture aussi écaillée que la mienne. La vieille voiture s'arrêta devant la porte d'un petit pavillon couvert de lierre et envahi de fleurs. Une dame aux cheveux blancs se tenait près de la porte. « Tu en as encore acheté un, Paul, » dit-elle. « Comme tu vois, Simone, et il est bien malade. » C'était vrai, je n'avais pas bonne mine. Pourtant, je sentais qu'il restait de la force dans mes pédales. Je me redressais sur mes deux roues pour faire bonne impression. Paul me détacha avec précaution et me posa sur le gravier de la cour. « C'est le dernier, celui-là. Je te le promets, » annonça-t-il. « Enfin une bonne nouvelle, » soupira Simone. « Mais quand me diras-tu ce que tu mijotes avec tous ces vélos ? À ton âge ! » !»« On a l'âge qu'on veut !» sourit le vieil homme. « Et puis tu sauras tout bientôt. Attends, tu verras. » Simone tourna les talons en haussant les épaules. Paul me conduisit à travers les allées du jardin jusqu'au garage. Il avait toujours ce drôle de sourire. Je commençais à me demander s'il était aussi gentil qu'il en avait l'air. « J'étais le dernier, » avait-il dit. Ces mystérieuses paroles m'inquiétaient. Le dernier de quoi d'abord ? Et qu'allait-il se passer bientôt ? Je me mis à trembler de tous mes rayons. Il ouvrit la porte du garage et me poussa à l'intérieur. Il faisait noir, on n'y voyait rien. Pourtant, je sentais comme une présence. Paul alluma la lumière. Ah, ça alors, mille sonnettes ! Jamais je n'avais vu autant de petits vélos, à part peut-être au magasin où je suis née. Il y en avait partout, alignés contre le mur, pendus au plafond. Ils semblaient tout neufs. Si Louise avait été là, elle aurait pu les compter. Louise, tiens, est-ce que je la reverrai un jour ? Mais Paul ne me laissa pas le temps d'être triste. Il me souleva et me posa sur l'établi. Il ouvrit quelque chose que je connaissais bien, une caisse à outils. J'ai toujours eu peur des mécaniciens, tout comme Louise craignait les docteurs. Paul sentait que je n'étais pas très rassurée. Alors il me parlait doucement en me déshabillant. Il a démonté ma selle, mes freins, mes roues, mon guidon. J'étais tout nue et il avait l'air content. Moi j'étais vexée et j'avais froid. Alors il m'a gratté le cadre avec une brosse métallique. Ça me chatouillait. Après il m'a nettoyée avec un chiffon et il est allé chercher un pot de peinture bleue. C'est ainsi que je me suis retrouvée tout bleu, des pieds à la tête si l'on peut dire. Deux jours plus tard, quand j'ai été bien sec, il m'a rhabillée avec en cadeau deux pneus neufs. Sans me vanter, j'étais superbe. Et puis le bleu me va si bien. Mais la porte du garage resta longtemps fermée. Et en silence, nous attendions le jour de notre sortie. Ce fameux jour arriva enfin. Paul ouvrit la porte du garage. La vieille voiture était là, attelée d'une grande remorque. Il nous entassa tous dedans avec un grand soin et monta dans la voiture où attendait Simone. Des pétarades et des secousses nous annoncèrent que nous étions partis. Quelques chaos plus tard, nous arrivions. Le voyage avait été très court. Aucun de nous ne savait ce qu'il attendait. Paul m'attrapa par la selle et je pus voir enfin où nous étions. Nom d'un guidon ! C'était incroyable, j'étais revenue à la bourse aux jouets, à l'endroit même où quelques mois plus tôt Louise et son père m'avaient vendu. Dans la salle, toujours autant de bruit, de gens et de vieux jouets. Paul nous aligna les uns à côté des autres, il posa sur chacun de nos nez une étiquette. 500 francs pour la caisse des écoles du quartier. C'était donc ça ton idée, s'exclama Simone. Il faut bien que j'occupe ma retraite, répondit Paul. Et puis avec cet argent, l'école pourra payer ce fameux voyage au bord de la mer à tous les enfants. Simone sourit. Tu n'es qu'un vieux cachotier. On a l'âge qu'on veut, soupira Paul. Les gens défilaient devant nous depuis 2 heures. Déjà presque tous mes camarades étaient partis, vendus à d'autres enfants. Moi aussi je voulais m'en aller. J'avais envie de rouler, de m'amuser, de vivre. Mais qui m'achèterait, fille ou garçon ? J'irai en ville, à la campagne, et pourquoi pas en Amérique ? J'étais perdue dans mes réflexions quand une voix me fit sursauter. Non, c'était impossible, cette voix. C'était celle de Louise, j'en étais certain. Je tournai mon guidon dans sa direction. C'était bien elle, je n'en croyais pas mes poignets. Elle s'approcha de moi, m'examina sur toutes les soudures. J'avais envie de lui crier « Louise, c'est moi, tu me reconnais ?» Elle se tourna vers son père et dit, en me montrant du doigt, « Dis donc, papa, il est beau ce vélo bleu. Il serait bien pour Lucie. » Le père me regarda, réfléchit et dit, « Ta sœur n'est encore qu'un bébé, mais tu as peut-être raison. Après tout, il n'est pas mal ce vélo.
Il est même plus beau que mon vieux rouge, tu te rappelles ?» ajouta Louise.
« Bien plus beau, tu veux dire. » Paul prit le chèque de 500 francs en disant « Merci pour les enfants. Grâce à vous, ils feront un beau voyage, je pense. » Le père lui serra la main. « Je crois que c'est vous qu'il faut remercier. » Et moi alors, on ne me félicitait pas. Pire encore, on ne me reconnaissait plus. La vie des petits vélos est parfois injuste. En tout cas, j'étais loin de me plaindre. J'allais retrouver ma maison, j'allais revivre, c'était le principal.
Dans le coffre de la voiture qui me ramenait chez moi, j'entendais la petite Lucie qui pleurait pour réclamer son biberon. Je pensais, attends un peu toi, tu verras quand tu seras plus grande. nous en aurons des aventures. Le ronronnement du moteur me berçait. Je m'endormis. J'étais heureux. Voilà, c'était Le Vélo Rouge, une histoire de Didier Dufresne et Fabrice Turier chez Nathan. Histoire de peut-être vous aussi replonger dans votre cave pour dénicher vieux vélos empoussiérés et délavés. Dérouillage et dépoussiérage, deux clics et deux claques, trois tours de manivelle et 18 tours de selle, un peu de peinture verte ou violette, bleu azur à rayures ou bleu roi à petits pois, une sonnette sur le guidon et un joli nœud papillon. Et c'est parti pour le tour du quartier, des maisons, des vallées, des vallons, des villes et des monts, et pourquoi pas du monde. Donc, à tes petits mollets, la plus douce des électricités. Merci à nos invités, nos cyclistes buissonniers, Pascal Le Petit et Aurélianin, notre cycliste du son, monteur son, Sylvère Petit, Raphaël Terribilé derrière la console aujourd'hui, et moi-même, Donatienne Rock. Voilà, c'était les oreilles buissonnières. Et n'oubliez pas, si vous voulez faire marche arrière et réécouter nos émissions, rendez-vous sur www.lesartsbuissonniers.com avec deux S et deux N, bien sûr. Alors, bonne radio, bon vélo et à bientôt.